Chapitre 28. Jésus délivre les animaux et confirme Jean le Baptiste. Un jour, alors que Jésus avait fini de parler, un jeune homme vint à lui, près de Tibériade, en un lieu où se trouve cette source, et lui donna des lapins et des pigeons vivants pour qu'il les mange avec ses disciples. Jésus regarda le jeune homme avec amour et lui dit « Tu as un bon cœur, et Dieu te donnera la lumière. Mais ne sais-tu pas qu'au commencement, Dieu donna à l'homme les fruits de la terre comme nourriture, et en cela, il ne le fit pas inférieur au singe, au bœuf, au cheval ou à la brebis. Pourquoi donc devrait-il tuer les créatures qui l'entourent pour manger leur chair et leur sang? Vous croyez que Moïse a ordonné comme légitime de sacrifier et de manger de telles créatures, et c'est ainsi que vous faites au temple. Mais vois, c'est un plus grand que Moïse qui est ici, et qui vient abroger la loi des sacrifices sanglants et des festins outranciers, pour rétablir, comme au commencement, les offrandes pures et les sacrifices non sanglants, avec des graines et des fruits de la terre. »
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. « Je vins dans ce monde en tant que Jésus de Nazareth pour témoigner de Dieu, mon Père, et de tout ce que Dieu a créé. » C'est à partir de la première pensée de la chute, vouloir être comme Dieu, que le processus de la chute se déclencha. Les êtres de la chute, ainsi que tous les enfants de Dieu qui se laissèrent séduire par leurs tentations et leurs promesses, reçurent des parties de planètes et de soleils spirituels, des mains bonnes de l'Éternel, qui aime tous ses enfants et les contemple éternellement en lui-même comme êtres purs. Ces parties de planètes et de soleils spirituels tombèrent avec les êtres de la chute. Au cours de périodes incommensurables de dégradation de la substance fine, immatérielle, conduisant à une densification de plus en plus grossière, elles atteignirent peu à peu le stade de la matière. Ces parties de planètes et de soleils spirituels contenaient également des parties des règnes minérales, végétal et animal, spirituel, qui subirent donc, eux aussi, le même processus de densification vers la matière. Cela signifie que la lumière contenue dans les formes spirituelles s'affaiblit de plus en plus. Au fur et à mesure de ce déclin, le corps spirituel des enfants de Dieu se réduisit. Il se comprima toujours davantage sur lui-même. Simultanément prit forme l'enveloppe extérieure renfermant le corps spirituel réduit, l'homme. Apprenez ceci, le corps spirituel est constitué de particules spirituelles. En elles se trouvent les atomes spirituels dans lesquels les forces des attributs divins et des qualités d'enfance sont enregistrées. À la suite de l'affaiblissement de la lumière, de nombreuses particules spirituelles commencèrent à s'emboîter les unes dans les autres, une particule en incorporant une autre en elle. Les sensations, pensées et actes illégitimes des enfants de la chute et de ceux qui se laissèrent séduire par eux provoquèrent ainsi la transformation des énergies cosmiques de substances fines en substances grossières. Et plus les êtres de la chute et ceux qui se laissèrent séduire par eux se détournèrent de Dieu par leurs pensées, désirs et actes illégitimes, plus la densification s'accrut, de telle sorte que le corps de substances fines rapetissa encore davantage et que celui de substances grossières se densifia toujours plus. La chute entraîna de ce fait une sorte de mutation. Une partie des forces spirituelles pures du corps se transforma en énergie de basse vibration, à partir desquelles le corps humain se constitua peu à peu. Au cours de ces périodes, le corps spirituel dans le corps humain devint le porteur des énergies spirituelles pour l'organisme humain. Le corps spirituel enfermé, on pourrait aussi dire emboîté, demeura dans l'enveloppe humaine. Il est le transformateur de la force vitale pour l'homme. Sans ce corps spirituel, sans l'âme, l'homme ne pourrait donc pas vivre. Les règnes minérales et végétales reçoivent sur la terre leur force vitale de la force primordiale, de l'esprit universel, par l'entremise de la planète spirituelle partielle présente au cœur de la terre et enveloppée de la matière terre. Les animaux présents sur Terre ont également pris forme au cours de la densification. Ils contribuèrent et contribuent à l'équilibre des forces naturelles. Quelques espèces animales n'ayant pas encore d'âme partielle reçoivent également leur énergie vitale par l'entremise de la planète spirituelle partielle au cœur de la Terre. Les espèces animales ayant déjà des âmes partielles, c'est-à-dire des particules spirituelles élevées à une certaine puissance, sont directement vivifiées par la force primordiale sans l'intermédiaire de la planète spirituelle partielle de la Terre. Afin qu'ils puissent également nourrir leur corps physique, Dieu l'Éternel donna à ses enfants humains la terre avec ses plantes, ses fruits, ses graines et ses sources. Les premiers hommes se nourrissaient de plantes, de fruits, de graines et buvaient l'eau des sources. Les animaux étaient leurs amis et leurs aides. Lors de ce processus de développement, apparut le mode de reproduction des corps terrestres par procréation. Au cours des temps, les hommes devinrent toujours plus brutaux. Les désirs, la volonté de posséder, la cupidité, l'aspiration à être reconnu grandirent et avec eux l'appétit pour la sensualité et la convoitise. Les hommes transformèrent les dons que Dieu leur donnait en élaborant des préparations culinaires toujours plus sophistiquées. De la sorte, ils augmentèrent leurs envies et leurs besoins de les satisfaire. L'homme commença à convoiter la femme et en prit plusieurs. Le désir de la chair, entre guillemets, du corps de la femme augmenta. Le désir sensuel et le besoin de le satisfaire devinrent de plus en plus motifs de procréation des enfants. C'est parce que les appétits sensuels augmentèrent que la convoitise des hommes se tourna vers l'animal. Celui-ci fut chassé, abattu et sa viande préparée et mangée. L'homme se comporta à peu près comme un cannibale. Les animaux devinrent des ennemis de l'homme parce qu'ils étaient chassés par lui et en avaient peur. C'est par tout ceci que les générations d'hommes se séparèrent de plus en plus de Dieu. Les hommes en vinrent à considérer les dons de Dieu, non seulement les plantes et les animaux, mais aussi la terre et leurs prochains, comme leur propriété. Ils ne furent plus frères et sœurs, mais asservirent leurs semblables pour en faire des esclaves. Ils les firent travailler sous le joug et dans la servitude, tels des animaux, et allèrent jusqu'à les utiliser comme marchandises. C'est de cette façon qu'apparut l'homme dominateur. Les hommes dominateurs partagèrent la terre en parcelles dont ils firent leur propriété et s'enfermèrent dans le mien et le tien. Ceux qui n'avaient pu s'approprier le moindre morceau du grand gâteau terre ou seulement un petit lopin de celle-ci furent considérés comme vassals, serviteurs ou esclaves du maître. Ce dernier fit travailler les autres pour lui et exploita hommes et animaux, ses esclaves. Beaucoup d'entre eux moururent d'épuisement. Pour l'homme dominateur, leur vie n'avait aucune valeur, sauf celle de l'esclave, employé à la satisfaction de ses désirs sensuels qu'il tenait en cage, prisonnière, tel un oiseau. L'homme dominateur spolia ses frères et sœurs en leur interdisant l'accès à une partie de la terre. Plus tard, la terre fut partagée en pays et les frontières apparurent. En raison de la brutalité des hommes, la terre commença à se défendre. De simples phénomènes naturels prirent peu à peu l'ampleur de catastrophes résultant des fautes commises par les hommes contre la loi. Ceux-ci étaient désormais soumis aux forces de la nature, sans possibilité de s'en protéger. Ainsi les hommes furent toujours plus victimes de catastrophes. Et parce qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre ce qui se passait, les hommes se représentèrent les forces naturelles comme des dieux tantôt bien intentionnés à leur égard et tantôt mal, leur envoyant des fléaux. C'est ainsi que les hommes se détournèrent de plus en plus du Dieu unique de l'amour et de la vérité, du Créateur du ciel et de la terre, jusqu'à l'oublier totalement pour finalement adorer leur propre Dieu. C'est ainsi qu'apparurent les superstitions. L'homme dominateur, méprisant la vie, attachait peu d'importance aux animaux et aux hommes qu'il appelait ses esclaves. Il en faisait l'offrande à ses dieux pour gagner leur faveur. Voyez, tout ceci est crime et péché contre les hommes, contre les règnes de la nature et contre Dieu, la loi de la vie. » Le retour vers le Dieu unique commença très lentement par l'apparition des prophètes de Dieu et de beaucoup d'hommes et de femmes illuminés qui apportèrent à nouveau la vérité aux hommes. Moïse transmit les 10 commandements du Dieu unique et éternel de l'amour et de la vérité. Il commanda aux Israélites de ne pas tuer et de ne pas manger les créatures de Dieu. Les Israélites n'écoutèrent pas toujours Moïse, en particulier quand les effets de leur propre cause les accablèrent. Ils se tournèrent alors de nouveau vers les dieux anciens et recommencèrent à pratiquer le rite du sacrifice. Sans cesse apparurent des prophètes de Dieu ayant la mission d'exhorter les hommes. Ils donnèrent toujours et encore au peuple une approche du Dieu unique. Le grand prophète Isaïe, qui est au ciel le porteur de la sagesse divine, annonça le Messie, le dispensateur de vie et de lumière pour toutes les âmes et pour tous les hommes. Ce qu'il annonça s'est accompli. Moi, le Christ, je suis venu en tant que Jésus vers les hommes et devins le Fils de l'homme. Je suis venu pour leur montrer le chemin hors du péché et de l'esclavage. En tant que Jésus de Nazareth, j'ai enseigné les lois de Dieu et les ai vécues en exemple pour eux. Mais l'humanité ne m'a pas reconnu. J'ai enseigné aux hommes de s'aimer les uns les autres, d'aimer les animaux, de respecter la nature et de considérer la terre comme la mère dans le sein de laquelle les enfants des hommes vivent et travaillent. J'ai enseigné aux hommes l'égalité, la liberté, l'unité, la fraternité et la justice. Je leur ai enseigné de ne pas diviser la terre en parcelles, mais de tout partager entre eux comme des frères. C'est ainsi que commença l'évolution, c'est-à-dire le retour progressif des hommes vers Dieu. C'est tout d'abord la croyance en plusieurs dieux qui disparut, puis on cessa de pratiquer les sacrifices humains, et plus tard, les sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, dans le cadre du changement de l'ancienne à la nouvelle ère, je mettrai fin aux expériences cruelles sur les animaux, à leur abattage et à la consommation de leur chair. Oh, voyez, c'est une époque d'évolution, le renversement de ce qui est ancien pour permettre à la spiritualité d'apparaître. Oh, comprenez, je suis venu en tant que Jésus de Nazareth. J'ai expliqué les lois aux hommes et j'ai aussi vécu la vie dans la loi de Dieu en exemple pour eux. Sur le Golgotha, je devins le Rédempteur de toutes les âmes et de tous les hommes. Maintenant, votre Rédempteur est aussi votre guide dans l'ère nouvelle, dans l'ère du Christ que je suis. De plus en plus d'hommes se détournent de l'abattage des animaux et de la consommation de viande. De plus en plus d'hommes voient la terre comme un tout, comme leur nourrice, comme une partie de leur vie. Ils se nourrissent de ce qu'elle leur offre et le préparent selon la loi. Peu à peu, au cours des générations, apparaîtra la nouvelle humanité qui connaîtra les lois de Dieu, les respectera et se nourrira conformément à ces lois. Je suis venu en tant que Jésus de Nazareth pour enseigner les lois et les vivre en exemple, et ainsi pour abolir également les sacrifices sanglants, la consommation de la chair animale et les excès de la table. Je suis venu pour créer une nouvelle génération d'hommes accomplissant la volonté du Père éternel, qui est le Dieu unique, d'éternité en éternité.
Ce que vous sacrifiez à Dieu dans la pureté, mangez-le. Mais ce que vous n'offrez pas dans la pureté, ne le mangez pas. Car l'heure viendra où vos sacrifices et vos fêtes cesseront, et où vous adorerez Dieu avec une sainte vénération et une offrande pure.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Celui dont le cœur est pur vit de ce que la terre lui donne. Il remercie et honore Dieu en tout. Ses aliments aussi, il les offre à Dieu d'un cœur pur. Il n'absorbe que la nourriture que Dieu lui donne par la mère terre. Celui qui est pur reconnaît la pureté et il vit en elle et avec elle. Celui qui est impur ne connaît que l'impureté et continue à en produire les immondices parmi lesquels il vit. Ma venue est révélée. Préparez les chemins en vous pour moi qui suis le Christ de Dieu, car le royaume de Dieu d'où je viens est à l'intérieur de vous. Préparez-vous à ma venue et examinez votre vie jour après jour pour savoir si elle est conforme à la volonté de Dieu. Si vous constatez que vos sensations, pensées, paroles et actes ne correspondent pas à la volonté de Dieu, alors changez-les immédiatement. Soyez également attentif à cela quand vous mangez et buvez. Acceptez les dons de Dieu avec reconnaissance et mangez les mets qui sont en accord avec la loi divine. Consacrez votre cœur pur à Dieu afin d'être des consacrés à la vie qui respecte les lois divines. L'heure est proche où chacun devra rendre compte de ce qu'il a fait aux hommes, à la nature et aux animaux. L'ère nouvelle, durant laquelle les sacrifices sanglants et les expériences sur les animaux cesseront, ainsi que leur abattage et leur consommation, commence à poindre, car pour les hommes, ils sont des prochains des règnes de la nature. La terre se purifie de tout ce qui est bas. Ce qui est contre la loi sera remplacé par la vie plus élevée, où la volonté de Dieu sera toujours plus accomplie. Les hommes de l'ère nouvelle n'adoreront pas seulement Dieu, mais ils suivront ses lois.
Laissez donc les créatures de Dieu en liberté, pour qu'elles se réjouissent en Dieu et ne rendent pas les hommes coupables. Et le jeune homme leur rendit la liberté, et Jésus brisa leurs cages et leurs liens. Mais voici qu'ils craignirent d'être surpris et ne voulurent pas s'éloigner de lui. Mais il leur parla pour qu'ils s'en aillent et ils obéirent à ses mots et s'éparpillèrent remplis de joie. Alors qu'ils se trouvaient assis à la source du milieu, Jésus se leva et dit à voix haute « Laissez venir à moi et boire ceux qui ont soif, car je veux leur donner l'eau de la vie. » Des fleuves d'eau s'écouleront du cœur de ceux qui croient en moi et ce qui leur est donné. Qu'ils le propagent avec autorité, alors leur enseignement sera comme de l'eau vivante. C'est ce qu'il dit à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car la plénitude de l'Esprit n'avait pas encore été répandue, parce que Jésus n'était pas encore transfiguré. Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau qui vient de Dieu sera en eux comme une source qui jaillira dans la vie éternelle. Pendant ces jours, Jean envoya deux disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» En cette heure, il guérissait beaucoup de malades et d'épidémies, et chassait des démons, et rendait la vue à beaucoup d'aveugles. Jésus répondit en leur disant « Retournez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu, que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et que l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni soit celui qui ne s'irrite pas contre moi. » Après le départ des envoyés de Jean, Jésus commença à parler de Jean au peuple. « Que vouliez-vous voir en allant dans le désert? Un roseau agité par le vent? Ou un homme vêtu de 12 habits? Voyez, ceux qui sont richement parés et vivent agréablement sont à la cour des rois. Ou bien, que vouliez-vous voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, le plus grand d'entre les prophètes. Car c'est de lui qu'il est écrit. Vois, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin. Mais je vous le dis, entre tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean le Baptiste. » Et tout le peuple qui l'entendait, ainsi que les publicains, louèrent Dieu et se firent baptiser selon le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetèrent le plan de Dieu qui leur était destiné et ne se firent pas baptiser par lui.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. À toutes les époques, les pharisiens, les docteurs de la loi et les hommes de loi furent les ennemis des vrais prophètes. Leurs idées préconçues et leurs ambitions, le désir de tout savoir mieux que les autres, les incitèrent sans cesse à combattre les messagers de Dieu. De tout temps, les pharisiens, les docteurs de la loi et les hommes de loi eurent peur de perdre leur position et leur prestige, et il en est toujours ainsi. Les ténèbres connaissent le plan de Dieu. Elles ressentent la force émanant des vrais prophètes et des illuminés. Aux yeux et au sens de ceux qui se sont appropriés une partie du potentiel puissant de la terre, les grands prophètes et les illuminés sont leurs ennemis, ceux qui veulent leur prendre ce qui, en réalité, ne leur appartient pas. C'est pourquoi ils combattirent et combattent encore à l'époque actuelle le prophète juste et les illuminés. Ils les méprisent et les persécutent, ils les ridiculisent et les accablent de honte et de dérision. Les ténèbres connaissent le contenu du message et l'origine de tous les grands prophètes et des illuminés. Elles savent aussi quel sang coule dans leurs veines. Chez tous les grands prophètes et les illuminés, d'Abraham à Moïse, Daniel, Isaïe et jusqu'à la grande prophétesse instructrice de Dieu en cette époque, agit la même force, l'être primordial de Dieu, la lumière issue du sanctuaire de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes, et moi aussi en tant que Jésus de Nazareth, vinrent et viennent par la chair de la lignée de David. Cette lignée du Christ David prend ses racines dans le sanctuaire de Dieu et en moi, le Christ de Dieu. Sa mission spirituelle est de libérer avec moi tout ce qui est lié. On peut reconnaître de façon fiable un vrai et grand prophète au fait qu'il est persécuté, calomnié, méprisé et tourné en dérision par les moyens et méthodes dont dispose l'époque dans laquelle il vit. C'est ce qui se passa dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance. C'est ce qui m'arriva en tant que Jésus de Nazareth et c'est ce qui arrive aujourd'hui encore à la prophétesse de Dieu. Le passé se répète constamment car les âmes qui ont persécuté et tué les prophètes dans des existences antérieures se réincarnent sans cesse. C'est d'en bas qu'ils reçoivent mission d'agir ainsi. Voyez, lorsqu'à l'époque finale le monde pécheur s'écroulera et qu'une nouvelle humanité naîtra, beaucoup de soi-disant prophètes feront leur apparition. Celui qui ne fait que parler et dire de lui qu'il est un prophète sans révéler le sens profond de la parole n'est pas un prophète. Il ne sera ni attaqué, ni mis en doute, ni persécuté par les pharisiens. Les docteurs de la loi et les hommes de loi, parce qu'ils ne proclament que ce qu'ils veulent entendre. Ces prétendus prophètes seront même soutenus par les ténèbres, car ils sauront séduire les hommes de leur discours spirituel non vivifié du feu de l'Esprit-Saint. Les paroles de celui qui ne parle que pour lui-même ne sont pas vivifiées par l'Esprit de la vérité. Aucune étincelle vivifiante n'atteint ses auditeurs, et de ce fait, rien en eux ne se dirige vers le spirituel. Alors, contrôlez-vous. Mes paroles sont valables pour tous les vrais prophètes, les illuminés et pour tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, sa loi sainte. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront.